Je m'en fous. Tu arrêtes de parler comme ça. J'ai envie de gerber. Tu attendras. Va moins vite. Je vais pas vite. Je suis pas bien. Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? J'ai rien fait. T'étais avec eux. Ralentis, putain. Arrête-toi. Arrête-toi. La voiture ralentit, le clignotant sur la droite. Elle dévie légèrement vers la bordure, sur l'herbe. La voiture s'arrête et Samuel descend en courant vers le fossé, les mains devant la bouche. Il se penche et se met à vomir. Il a laissé sa portière ouverte et quand Sybille sort à son tour, elle la referme en la claquant. Elle arrive vers son fils qui cherche un mouchoir dans ses poches. Il n'en trouve pas. Il suffoque, crache. Elle entend qu'il pleure. Elle repart vers la voiture et ouvre la portière passager, saisit son sac et sort un paquet de mouchoirs. Elle lui tend le paquet, mais lui ne voit pas le geste qu'elle fait. Elle est obligée d'insister, d'approcher, de toucher son épaule. Et quand il comprend, il se retourne et prend le paquet sans un regard pour elle. De rares voitures passent très près d'eux, mais ils ne bougent pas, ni l'un ni l'autre. Elle voudrait dire quelque chose, mais qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Elle aimerait au moins réussir à capter son regard, même s'il cache ses yeux, et qu'il a honte de pleurer devant sa mère, de s'avilir à se pencher, et que se traîner comme ça, livide, tremblant, le fout hors de lui. Les mouchoirs tombent à ses pieds, pleins de morve, de vomi, de larmes, et il ne regarde pas. Mais lorsqu'il sent la main de sa mère sur son épaule, c'est comme une décharge électrique, et il n'entend pas la voix de Sybille, qui lui demande de revenir dans la voiture, de rentrer au chaud. Il n'entend pas sa voix qui se veut douce et aimante, lorsqu'elle répète Samuel. Samuel, comme lorsqu'il était enfant et qu'il était inconsolable, parce qu'il perdait trop vite à une compétition de judo, ou parce qu'une fois, un cheval l'avait désarçonné et qu'il s'était senti humilié devant son père et sa mère. Samuel, Samuel. Cette fois, il n'entend pas la voix qui se perd dans le froid du petit matin. Il ressent juste ce geste, une main sur son épaule. Et c'est comme une brûlure, et alors il se dégage et se retourne, et sa main devient un poing, et son avant-bras se jette, et puis s'arrête en vol. Sa mère pétrifiée, son regard pétrifié, et le geste de Samuel aussi pétrifié, suspendu, en attente, sidéré de lui-même. Le bras retombe, impossible de soutenir le regard de sa mère. Alors Samuel se met à courir de toutes ses forces. Avec tout ce qui lui en reste, il part droit devant, risquant de tomber dans le fossé mais ne tombant pas, titubant pourtant sous l'ombre des pins et les pieds dans l'herbe mouillée, ses pieds et ses bas de pantalon qui seront bientôt complètement trempés. Il court, vacille, se penche pour consolider son équilibre, et Sybille se ressaisit, elle sort de sa sidération et lui crie de revenir, mais il ne répond pas, rien, des râles qu'elle perçoit, un souffle qui doit lui déchirer la poitrine et la gorge, de plus en plus lointain. Alors elle remonte dans sa voiture. Putain, bordel, c'est pas vrai. Elle a oublié de desserrer le frein à main. Grognement mécanique. Le moteur grince. La voiture cale. Le moteur se tait. Elle redémarre. Une voiture passe à côté d'elle, très vite. Elle sursaute parce qu'elle a oublié de regarder dans le rétroviseur. Maintenant, la voiture roule au pas, sur le bas-côté, mordant l'asphalte par les roues gauches et l'herbe encore par celle de droite. Elle attend de reprendre la route. Puis non, elle continue comme ça. Elle accélère. Feu de détresse. Samuel a continué. Il est loin. Étonnamment loin, se dit-elle. Mais il ne court plus. Il marche. Dans quelques secondes, il apparaîtra dans la vitre de droite. Elle l'ouvre. Ça y est, elle est à la même hauteur. La vitre est ouverte et elle l'appelle, mais lui ne répond pas. Il accélère, penché, comme s'il avait un énorme sac à dos sur les épaules. Mais non, il n'a rien que son obstination et sa fatigue, les yeux fixés quelque part au loin, et il avance sans rien dire quand elle lui demande de monter, de la regarder, de lui répondre, quand elle finit par gueuler, par supplier. Mais non, il marche le souffle lourd, obstiné, buté. Et Sybille se dit qu'elle le connaît par cœur et pourtant elle continue. Sa voix se perd dans le vide. « Sam, monte, c'est dangereux, monte, je te dis, ça suffit !» Et lui n'entend rien et semble s'écarter davantage encore sur la droite, presque dans le fossé. Il fait froid et pourtant elle peut voir que son front brille de sueur. Ses joues rougies et soudain Sybille accélère et klaxonne. Et en deux secondes à peine, elle tourne sur la droite et bouche le passage de Samuel. Il s'arrête et Sybille sort de la voiture à toute vitesse. Elle va ouvrir la portière passager et prend le bras de Samuel et ordonne. « tu montes, maintenant tu montes !» Une sorte de journée dans la brume. Comme ces longs dimanches d'hiver qui s'étendent sans fin jusqu'à la nuit, jusqu'au lundi, comme si le temps s'était arrêté, englué dans l'épaisseur d'un silence qui anesthésie toute chose. Peut-être est-ce dû au fait que lorsqu'ils arrivent chez eux, Sybille et Samuel n'ont pas échangé un mot,